France Inter.
La oui bande originale avec Leïla Kadouroudadi, avec Daniel.
Hey, bonjour.
Et aujourd'hui, comme tous les jours de cette semaine, nous continuons de démarrer cette bonne année avec les bons moments de 2024.
Oui, avec un homme qui sait nous faire rire comme nous bouleverser avec son histoire familiale. Il le prouve encore une fois avec sa nouvelle saga, Moi, Fadi, le frère volé. C'est Riyad Satouf.
C'est Riyad qu'on aura dû voler.
Quelle joie.
Mais ça faisait tellement longtemps.
Vous
inquiétez.
C'est ce que je me disais. C'est ce que j'étais en train de
beaucoup
me dire.
Beaucoup trop de temps passé là.
Mais non, mais vous voulez plus venir ou quoi? C'est quoi le problème, Riyad?
Qu'est-ce qu'on a fait?
Mais il participe à d'autres émissions en plus.
Mais fait. Non.
Si, je te jure.
Ah bon, c'est pas en exclu chez nous?
Non, pas en exclu. Mais qu'il se disperse.
Je suis déçu. Riyad, dans quel état d'esprit êtes-vous?
Bah, mauvaise. Mauvais état d'esprit.
Non, très bon état d'esprit.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Oui, très bien. J'ai bien dormi. J'ai pris mon petit bol de céréales.
Vous avez besoin de combien d'heures de sommeil pour être en
alors,
forme?
Alors, si vous voulez être en forme, il faut au minimum 7 heures. Le mieux étant 8 heures.
Arrêtez avec cette voix.
C'est docteur Riyad. J'adore.
7 heures minimum.
Ah oui.
D'accord, très bien. Lisa Delmoitier, dans quel état es-tu?
Bien, mais en fait, moi, je crois qu'il me faut 9 heures.
Oui.
Non, attendez, on ne va pas faire la tour.
Ça s'intéressait aussi à ma vie.
Okay, la
santé,
c'est important.
Bien sûr.
Moi, j'adore dormir. Donc, si je peux dormir 10 heures, je dors 10 heures, franchement. Mais en réalité, 7 heures.
En réalité, tu es maman.
Mais oui, exactement. Ah oui, c'est vrai.
Et depuis?
Bah, 7 heures.
Plus de grasse mat.
Ouais, non, plus jamais.
C'est ça.
Jamais, jamais.
Non, vraiment.
Est-ce que. Mais Mélodie.
Moi? Dans quelle humeur je suis? Ou alors dans combien de temps je dors?
Dans quelle humeur?
Oui, moi je suis de très bonne humeur.
C'est bien,
c'est mon anniversaire!
Et surtout, congratulations.
C'est magnifique, mais il faut. Mais attends, j'ai encore gagné un an, je suis trop contente.
Oh, bravo!
Merci
bravo.
Pour les chouquettes.
Avec grand plaisir.
Et les clémentines.
Non, mais.
Et le picon.
Et l'alcool. Oui, je ne savais pas, Col de Laf était un écureuil qui faisait des petites réserves sur les côtés des tasses.
Mais ça se voit physiquement pourtant.
Dans les joues.
Julie, quel état d'esprit?
Je suis trop contente de rencontrer Riyad Satouf.
C'est ta première?
Ah ouais, c'est ma première fois. Vous êtes mon Taylor Swift à moi, je suis trop excitée.
J'adore cette comparaison. Parce que, en fait, je me considère comme une sorte de Taylor Swift.
C'est ça.
Mais physiquement, il y a un truc.
Amandine, dans quel état d'esprit?
Bah, excusez-moi, je suis pas trop comme vous. Moi, j'ai pris de la musique.
Ah, c'est Mylène, ça.
Presque tout est KO, mais il y a Mylène quand même.
Genre, tu as des concerts?
Ouais.
Alors?
Incroyable.
J'étais super.
J'ai jamais vu autant de gens. J'étais jamais allé dans un
stade de foot. C'est ça. Faut juste aller au foot. Hein.
Oui, bah oui.
Hold the laugh.
Moi, je suis admiratif. J'étais à Poitiers hier.
Ah.
Et la ville est parsemée de statues de Leïla Kadour en train de courir avec sa batterie de portable. C'est hyper impressionnant. C'est très beau à voir.
Rien, moi, je suis déçu.
Non, oh non, pas toi.
Si, parce que j'ai lu l'arabe du futur, moi Fadi, le frère volé, et je ne suis pas dans votre arabe du futur, et je suis très déçu.
Mais tu peux pas être dans tous.
Je m'étais habitué.
Ah voilà.
Je m'étais dit.
À force, on devient l'arabe du passé.
Et moi non plus, je suis pas.
J'y ai pensé en plus, mais je me dis, ça fait un petit peu l'échecu si je remets la Nagui.
Mais
dedans.
J'aime bien, mais franchement, donc, vous en parlez, j'aime bien, n'hésitez pas.
J'ai mis Bioman à la place.
Ouais, c'est un peu Nagui aussi.
Il regarde beaucoup la télé, je feuilletais, je regardais. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, Fadi, le frère volé, comment arrêter l'arabe du futur et le continuer?
Disons que ce projet était prévu dès le départ de l'arabe du futur, mais je pouvais pas
sincèrement
dire que... Ah oui, vraiment.
Parce que vous l'avez jamais annoncé.
Non, mais c'est vrai que j'aime pas parler des projets qui vont se faire, j'en ai plein d'autres dont je parle jamais, mais c'est vrai que c'est la retrouvaille avec ce frère que j'avais pas vu pendant 20 ans qui a déclenché l'idée de faire l'arabe du futur. Et donc j'espérais bien sûr que les lectrices et les lecteurs s'y intéressent, mais je me disais je pourrais faire une sorte d'arborescence sur toutes ces histoires de cette famille de cinglés, mais bon, voilà.
C'est réussi, c'est émouvant, c'est drôle, c'est intelligent, c'est Riyad Satouf. On a un fan qui est là.
Ah
on
oui.
a un fan, c'est Hold the Laugh. Monsieur Hold the Laugh.
Je suis fan de Riyad Satouf. Je suis fan depuis que j'arrête la bouffe. Un génie avec des origines dangereuses. Arabo-breton, promis, je ferai pas de blagues douteuses. On est fan de l'humour de Satouf. Quand je lis vos livres à Affida Turner, ça bouffe. La vie secrète des jeunes en BD, c'est bien vu. Daniel Morin voulait voir en vrai, ben garde à vue. Et vous êtes là pour moi, Fadi le frère volé. Un sujet pas marrant, avoir un frère volé. Va trouver un artisan qui veuille l'installer. Non. La prochaine fois, ce sera peut-être un frère store. Bien joué. Je suis fan de Riyad Satouf. L'arabe du futur, non mais c'est vraiment ouf. Je suis prêt quand la BD sortira en série. J'ai déjà écrit la BO, j'en fais un bout ici. Salam, je suis l'arabe du futur. Wesh, cousin, robot arabe, bien sûr. Ma parole, Jordan Bardet, la présidente. Ne voulait plus trop voir d'arabe vivant. Je suis programmé pour ne pas trop faire chier. Et Inch'Allah, me désintégrer. Et je suis fan de Riyad Satouf. J'ai tenu bon, aucune blague sur Satouf. Vous êtes notre invité, on vous fera pas le mal. Bienvenue à vous avec
la bande originale.
C'est vrai, dans cette histoire, l'histoire de votre frère, vous nous l'aviez déjà raconté, vous nous aviez déjà évoqué ce père qui rentre de Syrie, qui voit sa famille avec tous les enfants et qui va en prendre un. C'est ça le point de départ, c'est ça qui est fou, quoi.
Oui, oui, c'est vrai. Et quand j'ai retrouvé ce frère, justement, 20 ans après, j'étais très curieux d'avoir plein de réponses à plein de questions. Est-ce qu'il, déjà, il avait des souvenirs de ce qu'il avait vécu, de son enlèvement, le souvenir de son voyage? Et en fait, il se rappelait de tout extrêmement précisément.
Et c'est de ces entretiens que naît la BD.
Voilà, exactement. Et c'était en 2011-2012. Et j'ai eu tout de suite envie d'en faire une bande dessinée. Mais je me dis, comment intéresser les gens à son histoire, parce que c'est vrai que dans la vraie vie, elle avait intéressé personne, et en même temps, elle a quelque chose de cette histoire-là, quelque chose d'irracontable, parce que c'est vrai que c'est très dramatique, un enfant enlevé dans un pays, etc. Ah oui. Et je me suis dit que voilà, à 46 ans, je relevais ce défi d'essayer quand même de rendre cette histoire. Mais c'était possible que s'il y avait l'arabe du futur présent. Je pense qu'on peut lire Mouafadi sans passer par l'arabe du futur, mais je voulais qu'on puisse se réfugier peut-être dans les 6 premiers tomes si on a besoin.
Il faut rien vous raconter en fait, parce que Esther vous raconte quelque chose, ça devient un album. Votre frère vous raconte quelque chose, ça devient un album.
Vous croisez Nagui, vous faites l'arabe du futur.
Le mec, il a aucune idée en fait.
Non, mais c'est vrai. Et en même temps, j'essaie toujours de relier, c'est vrai, les choses avec ma vie en même temps.
Oui, et de le faire avec votre point de vue, avec votre prisme. Vous êtes évidemment dans la famille, vous n'avez pas le meilleur rôle. Quand même.
Bah non, mais comme tous les grands frères,
c'est pas le frangin le plus sympa. Hein.
Ouais. J'ai été méchant et je le raconte. Mais c'est aussi une manière de raconter comment, quand on est méchant, mais ça peut être aussi dans la vie, mais comme on s'attend pas à ce qu'un truc comme ça arrive du jour au lendemain, et finalement on reste avec la culpabilité de sa méchanceté, on se dit mais si ça se trouve j'ai été puni par le destin parce que j'ai été méchant qu'il est
disparu. Vous en avez porté le poids?
Oui, tout à fait, oui, c'est vrai, pendant longtemps, et c'est vrai que c'était une manière de le raconter aussi de manière marrante, enfin... moi, je sais que j'étais un grand frère insupportable. Je ne voulais pas qu'on me parle, je ne voulais pas qu'on m'embête. J'étais persuadé que mes frères étaient là pour me remplacer. C'est-à-dire qu'ils avaient été faits parce que moi, j'étais décevant. J'avais perdu mes cheveux blonds, je devenais de plus en plus moche, donc ils avaient fait d'autres enfants.
C'était le brouillon, quoi. Le brouillon.
Tout ça, c'est Daniel Morin. Vraiment,
c'est la première crêpe.
Oh, waouh.
Qu'on jette. C'est vrai.
Mais c'est pour ça qu'on fait d'autres enfants, généralement.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Je suis pas sûr de rester là.
Bah, ceux qui ont plus d'un enfant.
Ce qui est intéressant, c'est de décaler le point de vue en fait. C'est-à-dire qu'on vous a suivi avec l'arabe du futur. On a appris cette histoire et ensuite, parce que finalement la vérité est multiple et c'est bien d'avoir aussi la vérité de Fadi et son récit à lui. Et je trouve que tout d'un coup, ça reconstitue une sorte d'image un peu plus globale.
Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on parfois la société pourrait avoir tendance à nous faire voir les choses toujours en bien ou en mal. Ouais. Et c'est vrai que l'idée de multiplier les points de vue permet de douter, de voir des choses différemment, de comprendre peut-être, ou en tout cas de se rendre compte qu'on n'a peut-être pas bien compris, ce qui est aussi un truc intéressant.
Est-ce que vous, avec le recul, quand vous racontez à nouveau cette histoire que vous avez vécue de l'intérieur, il y a une part de... Est-ce que vous en voulez à quelqu'un, en fait ?
C'est marrant, parce que quand j'étais plus jeune, mon père... pour justifier ce qu'il faisait, me disait tout le temps, tu comprendras quand tu seras plus grand. Mmh.
Est-ce que c'est le cas?
Et en fait, ce qui est très, enfin, ce qui est drôle,
c'est très mal l'accent syrien. Hein.
On aurait dit ça.
Ouais, non, mais parce que l'accent syrien, il est particulier. C'est un peu comme ça un petit peu. C'est pas l'accent du Maghreb du tout. Mais c'est avec.
Là, moi, je suis en Russie là.
En tout cas, en voyage.
Oui, je suis dans un pays.
Voyage, voyage.
Super.
Non, mais donc il m'expliquait que je comprendrais plus tard. Et c'est drôle. Avec le recul, il y a quelque chose de très étrange. Dans ma famille, tout le monde pensait au surnaturel, croyait au surnaturel. Donc mon père était très religieux, ma grand-mère pensait, croyait aux fantômes, ma mère allait voir des voyantes, et moi-même j'ai fait du spiritisme, etc. Et j'ai jamais vu de phénomène paranormal. Mais le truc paranormal, je vous assure, qui est très étrange de mon point de vue, c'est comment cette histoire dramatique, tragicomique, oui, s'est transformée en livre et que ça intéresse les gens. Et je ne peux pas en vouloir à cette histoire, quelque part. Et j'ai l'impression, quand mon père me disait, tu comprendras plus tard, c'est ça qu'il voulait me dire. C'est qu'en même temps, toute cette galère.
Il savait que vous feriez
une
série.
Non, mais je sais pas, je vais pas.
Une série.
Mais je me dis, c'est toutes ces histoires familiales galères qui se transforment maintenant en, sur mon Instagram, j'ai des gens qui m'écrivent toute la journée pour me dire, j'ai hâte de voir votre album, je n'en peux plus, hein.
Des voix comme ça.
Des mamies, voilà, qui
m'écrivent. Ils écrivent en italique.
Ah oui, la voix de la mamie. La voix de la mamie.
Je ne supporte pas la bande dessinée. Je trouve ça très désagréable. Sauf vos livres, que j'ai hâte de les trouver rapidement dans ma librairie de quartier. Et donc, c'est, de mon point de vue, il y a quelque chose d'assez mystérieux, ouais, de surnaturel un petit peu, vraiment. Donc, comme le fait que je suis en train de vous parler actuellement. Ouais. Je sais que ça peut paraître un peu débilos de dire ça, mais et c'est exactement ce que je ressens quand je suis en train d'écrire un film avec les inconnus. Il y a un truc, je me demande parfois. Si je
vous
suis
êtes
pas en fait en train de délirer dans
un en dehors, de l'enveloppe,
vous savez comment on dit, ouais, en ce moment, on est dans une grande simulation,
ouais,
et c'est ma simulation, je ne sais pas, c'est assez étrange.
Est-ce que en Syrie on en voulait à votre père d'avoir volé un enfant entre guillemets?
En fait, il y avait plusieurs façons de voir les choses dans la famille syrienne. En tout cas, de la façon dont m'a raconté Fadi, c'est que il y avait déjà la peur qu'un quelque chose d'interdit et d'illégal attire l'attention du régime sur. Parce qu'en fait, les sociétés là-bas, par exemple, le petit village où nous habitions, avait son propre système d'auto-justice. Voilà, il n'y avait pas de policiers dans ce village. Et en fait, quand il y avait un problème comme ça, ça devait être un peu réglé par la société. Donc, ils avaient peur que, je sais pas, que la police syrienne
vienne
enquêter,
que la communauté vienne juger.
Voilà, exactement. Et en fait, assez rapidement, tout le monde s'est quand même soumis, parce que c'est la loi du père. Et en fait, c'est le père qui décide ce qui se passe. C'est le père qui décide comment doit se passer la vie. Et finalement, tout le monde s'est soumis.
Et les communications étaient vraiment rompues. Ces rendez-vous ratés, ces disputes au téléphone entre votre maman et votre papa. Lui qui dit, mais si tu veux retrouver ton enfant, viens. Vient avec tous les autres fils et reconstituant la famille en Syrie. Elle qui était, j'imagine, en larmes et déchirée, téléphone. Votre frère voulant parler un peu plus longtemps, mais ne pouvant pas. Enfin, c'est des moments très très durs.
C'est des moments qui sont difficiles à dessiner, oui, c'est vrai, parce qu'ils ont une portée dramatique que. Alors, faut trouver un moyen de rendre la chose plus entre guillemets, de trouver de la légèreté dans.
Pourquoi
le.
Pourquoi pour dans le dédramatiser.
Oui, puis aussi pour renforcer l'aspect triste, parce que c'est vrai que l'humour permet souvent de renforcer. Moi, je sais qu'en tant que spectateur ou lecteur, les romans dramatiques, au bout d'un moment, ils me font rire. Mais par contre, s'ils sont un peu rigolos et qu'il y a du drame, là, il y a quelque chose de vraiment triste. Quand quelqu'un est vraiment trop premier degré, et j'imagine, je sais pas moi, Didier Bourdon dans son rôle, quoi. C'est très compliqué de faire de l'humour du drame au premier degré.
Moi, Fadi, le frère volé aux éditions Les Livres du Futur, chez vous, quoi, autrement dit. Eh ouais, les 8 premières années, de 86 à 94, signé Riyad Satouf. On en parle jusqu'à midi et demi, mais voici d'abord Lisa Delmoitier. Ouais, ça va, Lisa?
Oui, ça va bien. Ça va bien,
ouais. Vous n'auriez pas raconté comme ça l'histoire d'un enfant
non,
volé?
Non. Moi, je sais, depuis bien longtemps, qu'on ne voit le vrai visage de son compagnon ou de sa compagne qu'en cas de séparation. C'est pourquoi j'insiste pour commencer toutes mes relations par la rupture. Voilà. On dit qu'on ne reconnaît les vrais amis qu'en cas de coup dur, mais moi, je vous le dis, on ne reconnaît les vrais amours qu'en cas de rupture. Une histoire d'amour, c'est la seule dont je veux qu'on me spoil la fin avant de m'engager dans le film. À la fin, il meurt. Non, merci. Depuis le début, c'était mon cousin. Non, non plus, non. Lisa, enfin. Et à la fin de l'histoire, vos parents, Riyad, on l'a déjà spoilé. spoiler, hein. Après leur rupture, votre père a kidnappé votre petit frère et c'est une personne complexe, votre papa avec ses démons, mais putain les darons, faites un effort quoi. Des millénaires qu'on vous dit arrêtez d'abandonner les enfants à la maman. Ok, donc on les kidnappe? Non, non plus, non, putain, mais ils comprennent rien. Et comment savoir que l'homme que t'épouses fera ça si tu le quittes? C'est ouais. pour ça que je conseille de se préparer à la rupture. Plein de choses peuvent se passer pendant une relation, mais soyons honnêtes, si on en croit les statistiques, avec ton partenaire, t'as plus de chances de rompre que de faire la Toscane en Vespa. Hein. Donc je veux savoir comment il se comportera. C'est facile d'être respectueux au deuxième rendez-vous, tu veux me séduire, mais est-ce que tu seras encore une bonne personne quand on se battra pour la garde? Et non, on se les répartit pas. Je sépare pas mes enfants. Ma dernière rupture, j'ai déjà du mal à séparer notre set de couteaux japonais. Vas-y, ils ont un socle pour les ranger ensemble et tout. La vraie galanterie, c'est pas me tenir la porte quand on commence à s'aimer. La vraie galanterie, c'est continuer à me tenir la porte quand tu sais que t'as plus aucune chance de te faire sucer. C'est là qu'on reconnaît les grands seigneurs. Mais c'est vrai. Parenthèse. Mais c'est pour ça que je suis aussi toujours très attentive à la manière avec laquelle les hommes se comportent envers les moches. Parce que parfois, tu crois qu'un homme est sympa, mais après, tu te rends compte qu'il voulait juste sauter toutes ses collègues. Mais s'il retient aussi la porte de l'ascenseur à Janine, yeux qui louchent et Nichon qui balaye le sol, là, tu sais que t'as affaire à quelqu'un de bon en toutes circonstances.
Un bon test.
Et loin de moi l'idée de juger, je sais à quel point c'est compliqué de gérer une rupture, mais c'est pas parce que t'as le cœur brisé que tu dois gâcher la vie des gens autour de toi. Voilà donc mon petit guide pour être un ou une ex exemplaire. Okay. Croyez-moi, je suis une experte. Je suis tellement une excellente ex que tout le monde me largue. Juste pour voir à quel point je fais ça bien. Un bon ex, déjà, est quelqu'un qui te laisse assez d'espace pour aller de l'avant sans pour autant te traiter comme un total étranger. Je trouve ça toujours horrible quand t'as partagé les moments les plus intimes avec quelqu'un puis il te parle comme à son notaire, quoi. Thierry, on a eu la gastro ensemble dans un camping-car, donc ne me dis pas d'agréer tes sentiments les plus distingués. Je t'ai vu vomir par le nez, s'il te plaît. Deuxième conseil, entraînez-vous à être un bon ex. Avant d'aller dans l'espace, un astronaute passe du temps dans un simulateur. Faites pareil en couple. Des mois avant la rupture, engueulez-vous. Hein, puis donnez-vous des notes. À la minute 6, t'as critiqué ma mère. C'était pas nécessaire. C'est vrai, Lisa, mais tu m'as cherché. Hein. Je comprends toujours pas comment on est arrivé de tu vides jamais la vaisselle à t'as une petite bite. J'avais tenté une impro, mais c'est vrai que c'était bon. C'est pas lié. Enfin, dernier conseil, sachez qu'on ne naît pas bon ex, on le devient. Il faut laisser du temps entre la rupture et une potentielle amitié. Et en attendant, pas de dinguerie, ok? Pas de kidnapping, pas de séparation d'enfants, parce que les frères et sœurs, c'est comme les écouteurs sans fil. T'en perds un, c'est tout le système qui souffre. Oh
moi, Fanny, le frère volé, le tome 1 de 86 à 94, avec cette... Alors, est-ce que c'est un vice, une malice, ou est-ce qu'il avait son plan en tête, votre papa, dès le début? Il rentre de Syrie et il s'installe dans la famille et il vit le quotidien et il est gentil, il est généreux, il fait des cadeaux. C'est-à-dire qu'il veut séduire et passer pour le père idéal pour, à la fin, dire « maintenant, on s'en va ».
Oui, oui, oui. Et ces souvenirs-là étaient très présents chez Fadi quand il m'en a parlé.
Pas chez vous.
Parce que moi, je l'ai raconté.
Vous l'avez vécu en frère aîné.
Oui, mais c'est vrai que moi, je le connaissais plus. Je connaissais ce père beaucoup plus que ne le connaissait mon petit frère, ouais, qu'il avait quasiment pas vu. Et donc, je savais un peu quand il faisait semblant, je savais quand il était duplice, quelque part. Il essayait toujours de faire croire qu'il était progressiste, etc.
Mais vous souvenez du jour où il débarque sans prévenir?
Oui, bien sûr, plusieurs fois. Oui, plusieurs fois. Il l'a fait plusieurs fois. C'était aussi une manière de contrôler sa famille, de faire coucou, qu'est-ce qui se passe, Guy? Okay. Enfin, voilà, ouais. De se demander si...
Et, ouais, ça faisait peur ou ça faisait plaisir? À l'époque.
Non, moi ça me... En fait, j'étais inquiet par rapport à la mère, parce que ma mère, en effet, le vivait mal, ce truc-là.
Il y avait quelque chose... Il arrivait avec des cadeaux, il jouait un peu...
Oui, mais quoi. Même, il y avait quelque chose... En effet, on se sentait surveillé, on sentait qu'il se passait quelque chose. C'était comme un... Il était complètement fou, quelque part. Il avait vraiment une forme de paranoïa aiguë.
Personne ne croyait, en fait, à son changement d'attitude, à part Fadi, en fait.
Oui, c'est ça, exactement. C'est ça qui est rigolo, c'est que Fadi en gardait des souvenirs très nets. Il disait, mais il était très gentil, ce...
Et c'est pour ça qu'il prend le plus petit comme cible, comme otage?
Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais, c'était son plan.
Quel âge avait Fadi?
Il avait 5 ans et demi, 6 ans, presque 6 ans.
Et il adorait les Game Boy.
Mais c'est vrai que c'est l'âge. Il y a ça aussi dans que je voulais raconter, c'est que à la fois, ce qui est tragique dans cette histoire, c'est cet enlèvement, mais il y a aussi autre chose qui est aussi tragicomique, c'est que la famille reste avec la peine, mais les petits-enfants, ils s'adaptent à tout. Et c'est ça qui est terrible aussi, c'est qu'en quelques mois, je sais pas, s'il avait été élevé en Norvège, il serait mis à parler norvégien, ou au Japon, enfin, il y a quelque chose de... Il y a une plasticité dans les enfants qui est émouvante aussi, parce qu'on se dit, bah, il se transforme en petit syrien.
Et vous, surtout, vous dites quoi en son absence, justement? C'est ça qui est intéressant, c'est l'imagination qui commence à fonctionner.
Ben voilà, c'est vrai. Et ce frère absent qui est une sorte de frère fantôme que j'ai eu toute ma jeunesse, en fait, quelque part, a stimulé mon imagination. Alors peut-être pas dans les meilleurs côtés, c'est-à-dire j'imaginais toujours ce qui pouvait arriver de pire. Ouais. Moi, je savais, comme j'avais vécu en Syrie, je savais ce qu'il pouvait vivre avec les autres enfants, à l'école, etc. Mais je n'osais pas, évidemment, le dire à ma famille pour ne pas les briser. Mais c'est un...
Donc vous aviez peur pour lui ?
Oui, oui, oui. Moi, j'étais persuadé que ça ne se terminerait pas très bien. J'étais, connaissant mon père, oh, c'était très, très tragique.
Est-ce que vous lui avez demandé l'autorisation ? D'écrire cette bande dessinée, est-ce qu'il a été un lecteur, le premier lecteur et voir un censeur en disant non ça j'ai pas envie que tu le dises.
Est-ce qu'il est intéressé au résultat?
Comme Esther.
Les vraies questions.
Comme Esther.
Mais est-ce que seulement il est au courant?
La fratrie, la fratrie.
Alors en posant cette question, vous.
Tu soulèves un problème.
Vous voulez savoir également un petit peu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ah, oui. Or, je vais le raconter dans les livres. Et donc, je ne répondrai pas directement à cette question. Mais Fadi était très... adorait la BD. Et donc, il voulait absolument qu'on raconte cette histoire-là. C'est, en effet, quand j'ai fait l'Arabe du futur, il y avait cette idée de faire revivre l'histoire de cette famille.
Moi, Fadi, le frère volé, avec beaucoup de... Ouais, d'émotion et puis d'énervement. On se dit, si ça nous arrivait, comment on réagirait ? C'est-à-dire que cette famille déchirée, c'est un kidnapping en soi-disant en bonne et due forme, parce que j'y ai droit, je suis le père, donc j'ai droit de ce que pensent sûrement certains pères, de vie ou de mort sur mes enfants, c'est moi le père, c'est ça, c'est une image ancestrale qu'il cultive, et avec toujours cette promesse de on va revenir un jour, ou tu vas les revoir un jour, ou ils vont revenir. Une sorte de carotte,
oui, oui.
Pour ne pas qu'ils lâchent.
Non, non, c'est vrai. Et puis, c'est fait avec un but aussi, l'idée de réunir la famille, de faire qu'on ne supportera jamais cette séparation, etc. C'est un plan. Alors c'est vrai que c'est quelque chose de très répandu. Il y a quand même beaucoup d'enlèvements d'enfants, je dois admettre. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé vis-à-vis de la loi aujourd'hui. C'est-à-dire, un enfant ne peut pas être emmené à l'étranger par un parent sans avoir l'accord de l'autre parent.
Normalement, mais...
Il y a quelque temps, c'était drôle, c'était pas très drôle, mais je suis allé en bagnole à Guernesey. Donc, il y a une petite île anglo-normande.
C'est pas très drôle.
C'est pas très drôle.
Comment ça se
passe? J'ai pris un ferry. Donc, j'étais dans ma bagnole et on faisait la queue comme ça pour rentrer dans le ferry. Et juste devant nous, il y a une espèce de gros 4x4. Et là, il y avait un policier de la douane qui était avec un papier comme ça et qui parlait au monsieur devant. Et je l'ai entendu dire à... J'avais ouvert ma fenêtre, j'étais prêt avec mon petit papier, et j'ai entendu le douanier dire à sa collègue, il dit « Ah ben non, le monsieur, il est avec ses enfants, mais il n'y a pas madame, donc moi, on appelle madame, si elle ne répond pas, monsieur, il ne part pas, c'est pas possible. » Là, je me suis dit « Tiens, c'est marrant, si on avait eu ça en 92... »
Mais les enfants étaient attachés à l'arrière du véhicule, quand même, c'était un indice.
On a le droit de voyager avec un enfant sans...
Eh ben, en fait...
Il faut l'autorisation. En tout cas, le livret de famille. Pour le livret de famille.
Non, il faut l'autorisation des parents. Il faut une autorisation des deux parents. Et ils peuvent contacter.
Mais je ne savais même pas.
Mais si.
Mais c'est pas évoqué.
Heureusement que tu n'emmènes jamais tes enfants en vacances, imagine.
Ni ma femme.
C'est pour ça que c'est bien.
Ce passage de douane, il est un peu évoqué, justement, quand votre père il passe avec Fadi.
Oui.
C'est quand même évoqué avec. Je ne veux pas spoiler, mais il y a quand même un échange de quelque chose.
Ouais. Oui, mais ça, c'était à l'arrivée en Syrie.
Oui, c'est ça.
En Syrie, c'était vraiment plus quelque chose. Mon père a toujours eu des problèmes avec le service militaire.
Ah,
et en fait, il risquait d'aller au service militaire à tout moment. Donc, c'était pas... Mais c'est vrai que pour quitter la France, à cette époque-là, il suffisait d'avoir le livret de famille. Et...
On va en parler avec notre invitée tout à l'heure, Élodie Mulon, qui est avocate, et sur le sujet des enfants, justement, volés. Et comme ça, j'apprendrai voilà, quel papier il faut que j'ai pour pouvoir voyager avec mes enfants. Riyad Satouf, l'Arabe du futur, moi, Fadi, le frère volé, le tome 1, sur combien de tomes prévus ?
Alors, normalement, 3. Tout à fait, 3. Là, j'ai l'histoire jusqu'au bout et je pense qu'on ne dépassera pas 3.
Vous allez finir ou pas ?
Ouais.
Je suis en cours, non. Et
alors,
je
colorie. Non, mais avec toujours cette patte, c'est-à-dire qu'il y a... peu de couleurs, mais elles sont très présentes et elles définissent l'humeur.
Oui, puis en fait, l'idée, je sais que dans les premiers tomes de l'Arabe du futur, j'utilisais la couleur pour susciter le déracinement, donc il y avait une couleur dans chaque pays. Et là, l'idée, je me suis dit que j'allais faire autre chose, c'est que la couleur, elle change sans que le lecteur ou la lectrice s'en rende compte du début jusqu'à la fin, page après page, ça évolue parce que Fadi ne se rend pas compte de ce qui lui arrive. Et donc, c'est une manière de... métaphorisé par la couleur, le changement de sa mentalité. Il se transforme en Syrien sans s'en rendre compte.
C'est une réussite, moi, Fadi, le frère volé. On en parle jusqu'à 12h30. Voici Mélodie Fontaine qui coûte exactement le même prix.
Alors, il y a quelques semaines, tel Daniel après Sigourde de Pic-Saint-Loup, je vous avais parlé longuement de mon corps. La mammographie d'abord, hein, souvenez-vous, un vieux pizzaïolo essayait de presser un vinyle avec mes seins. À la fin, il ressemblait à un 33 tours. Didier Nibarbeli vient ici. Bon. Ensuite, je m'étais occupée de mes autres globes, mes yeux. Alors, la semaine dernière, j'ai pris mon courage à deux mains pour m'occuper de mes parties intimes. Ah. Très mauvais choix d'expression. Bref, gynéco. Donc, chez mon gynéco, que j'adore, il est super, je l'embrasse, on est plutôt parti sur un menu traditionnel, hein, frottis de porc, palpation de légumes, petit café dans la culotte. Et nous avons fini sur la fameuse question de la contraception. Chose qui débouche à chaque fois sur un dialogue très étrange avec le praticien. Hein. Bon alors, on fait quoi, Mélodie? C'est-à-dire, on fait quoi? Vous êtes très séduisant, donc je... Même si devant Dieu, je suis pas dispo, si on fait ça vite, bon. Et puis, c'est étrange quand même, je sais pas. Coucher avec mon gynéco, je pêche quand même pas avec mon poissonnier, donc... Non, je veux dire, en termes de contraception. Ah oui, ah, ça, oui. Je sais pas, je suppose que vous devez recevoir des capotes gratos ou quelque chose. Non, je voulais dire votre contraception. Est-ce qu'on repart sur un stérilé? Ah oui, d'accord. Alors, ce qui devait être une promenade de santé se transforme en introspection éclair. Suis-je prête à enfanter de nouveau? Et tu dois répondre très vite, hein, le médecin est pas là pour débattre avec toi et taper le bout de gras. Pas si, il est là pour taper le bout de gras, mais pas celui-là.
Non.
Alors. Bon, écoutez, docteur, c'est un peu soudain, là, j'y ai pas vraiment réfléchi. Stérilé, hein, et vite, hein, j'ai pas fait de grasse mat depuis 5 ans. Stérilé. Mets-le-moi tout, tu m'entends? Oui, moi, je suis team stérilé. Daniel, c'est stérilé. Non, moi, c'est stérilé. C'est pas... C'est pas le nom de ma chaîne Twitch, hein. Oh. Non, pour les moins formés aux...
Des fois, on confond.
Pour les moins formés aux antiféconds, c'est un objet qu'on t'enfonce dans la chose pour empêcher les spermatozoïdes... Bon, je peux écouter l'explication, mais en gros, doit pas tomber en cloque, d'accord? Et ça ressemble globalement à un hameçon en forme de T. Comme quoi, on reste dans le thème de la pêche, hein. Sauf qu'avec ça, t'attrapes pas de la tanche. Enfin, en tout cas, pas le poisson. Bref. J'avais déjà un stérilé, mais je devais donc procéder au changement, parce que ça faisait 5 ans quand même. Ça commençait à dater. Le machin à l'intérieur était tout rouillé, digéré par les sucs, écoute. C'était plus un T, le stérilé, il commençait à ressembler à un M. Je lui ai demandé si je pouvais garder le M, j'aurais donné à Mika, qu'il l'affiche sur la porte de sa chambre. À l'approche des fêtes, on sait jamais quoi offrir à Noël. Mais il a pas voulu.
Ah. Mika non plus.
Bref, le gynéco est parti à la cueillette et nous avons procédé au grand remplacement, à l'échange de l'étrange objet. Il a enfoncé sa caméra, il s'est félicité, il a dit « Hey, il est quand même bien posé, non ? Hein ? Il est bien posé ?» J'ai dit « J'en sais rien, si j'allais le faire, je l'aurais fait moi-même. » Oh, je suis pas passé. Moi, je suis passif chez le gynéco. Hein. Je participe pas, je suis là, les yeux baissés, le regard un peu dans le vide. J'ai l'impression d'être à table et de regarder ma fille jouer avec son bol de pâte alphabet, là. M, oui, très bien. I, j'ai fait « C'est pas vrai, j'ai cru qu'elle allait écrire Mika, j'aurais offert le collier de pâte, on sait jamais quoi. » Mais non, elle a écrit Mycose. Un petit génie. D'ailleurs, c'est assez ironique que le gynécologue me fasse penser à ma fille qui, lui, a suivi ma grossesse et qui, par sa pratique, peut m'empêcher d'en avoir une nouvelle. Et qui m'empêche d'en avoir une nouvelle. Empêcher, tiens, nous restons dans le thème de la poiscaille encore, c'est marrant. La langue française est décidément joueuse. C'est révélateur d'utiliser un verbe qui a induit une interdiction. Intéressant en termes de sens. Empêcher. Ça voudrait dire que je serais prête à remettre le couvert. Alors, faut que j'éclaircisse tout ça, je vais en parler à la bande après l'émission. Lisa, Camille, Leïla, Daniel, Nagui, Ol et Matangui, et on va falloir qu'on tape le bout de gras. Mais pas le mien, hein.
Merci. Vous êtes bien dans la bande originale, vous serez encore mieux après Étienne Dao, Les derniers jours de pluie.
De dresser contre les vents, ciel fou, zébré d'éclairs, empoisonne les sangs de pirates égarés en mer. Lorsque nos extrêmes se frôlent, nos éclats de voix et nos vers claquent comme des coups de fouet à l'alchimiste, à l'univers. Il te reste, reste, reste quelques kilomètres, mètres, mètres avant que tu ne touches mon âme et que cesse les derniers jours de pluie. Il nous reste, reste, reste quelques kilomètres, mètres, mètres pouvoir disparaître un jour peut-être. Les derniers jours de pluie. Les yeux brillants des soirs de fête et le mal du pays. Le compte est à rebours jusqu'au bout du bout de la nuit. Premiers rayons éblouissants aux plus jeunes heures du jour dessineront tous les contours de nos silhouettes endormies. Il me reste, reste, reste quelques kilomètres, mètres, mètres avant que je ne touche ton âme et que cesse les derniers jours de pluie. Il nous reste, reste, reste quelques kilomètres, mètres, mètres pouvoir disparaître un jour peut-être. Les derniers jours de pluie.
C'était Étienne Daho dans la bande originale de Riyad Satouf. Riyad Satouf est notre invité jusqu'à 12h30 sur Inter.
Oh merde, faut que j'achète des yeux.
Riyad Satouf, est-ce qu'il y a dans ce tome 1 un moment qui vous est plus sensible, plus fragile que tout? Parce que à chaque page, il se passe, c'est comme un thriller, il se passe aussi des choses qui sont bouleversantes quand on le lit, mais vous, dans votre vécu?
Alors, il y a un passage qui n'est peut-être pas celui auquel on penserait immédiatement, qui faisait partie des choses qui m'ont le plus surprise dans ce que m'a raconté mon frère. Moi, j'habitais dans ce petit village en Syrie dans les années 80. Lui, il était dans les années 80-90. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est quand il m'a raconté que à Homs, cette ville qui pour moi était ressemblait à une ville soviétique où il y avait lui à son époque il y avait un magasin de jeux vidéo. Et ça je sais pas, c'était hallucinant.
Avec en fait, la Game Boy.
Avec des fausses Game Boy venues de Chine, des faux jeux vidéo venus de Chine.
Vous avez la Game Boy et vous les appelez non mais
Game Boy, bah oui, ça Game c'est mon père qui l'appelait comme ça. Mais ça c'est incroyable. En fait, c'est pour moi c'est le truc le plus dingo de c'est le fait que le pays évoluait quand même. D'accord. Il y avait une sorte de trucs économiques qui se passaient. Et quand il m'a parlé, je me dis, mais un vrai magasin de jeux vidéo avec des jeux.
Et votre père gâtait Fadi pour l'embobiner.
Bah c'est ce qu'il m'a raconté. Voilà, c'était vraiment pour le. Il achetait quelque part son amour. Il en a fait un enfant pour y gâter. Oui, c'est vrai.
Riyad Satouf, l'arabe du futur, moi Fadi, le frère volé. Il y a de la musique donc. Enfin, on imagine. On imagine qu'il a grandi. Il y a même un petit clin d'œil.
Tu vas bien. Non, tu nous connais. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon.
Elle revient d'actualité. Et puis, clin d'œil évidemment à celle qui est admirée par tout le monde arabe, Férouz.
Ouais.
Présentée par votre père comme étant la référence, la voix, la chanteuse unique.
Ouais, c'est joli, mais c'est vrai. Et là, il était complètement amoureux d'elle. Ce qui est assez étrange.
Comme tout le monde arabe.
Ouais, c'est ça. Ben voilà, pas très original.
Kalsoum, enfin, c'était des
grands. Oui, alors lui, il n'aimait pas Kalsoum. C'est assez marrant.
Pourquoi
non
un problème avec l'Égypte
Il préférait Féroz.
Ouais, ok. La musique dans, dans votre vie, on va en parler, je rappelle, avec Élodie Mulon, qui est avocate de ses enfants volés, kidnappés par leurs parents au moment de séparation. Mais d'abord, la musique commence en 84. Vous écoutiez. Je comprends rien.
Qu'est-ce
qu'elle dit?
Je sais pas. C'est joli à écouter. C'est un peu...
Il y a la même mélancolie qu'on pourrait retrouver dans des musiques qui viendraient d'Asie. Dans la douceur.
Oui, c'est vrai.
On pourrait dodeliner comme ça de la tête.
J'aurais du Vianney.
Non, c'est près du fado. C'est triste. On sent que c'est triste en tout
c'est
cas.
Mélancolique, oui. Okay,
oui. Ça se trouve, elle chante qu'elle s'éclate.
Et en même temps, oui, elle est peut-être dans l'amour.
Peut-être.
C'est
peut-être.
Chanson d'amour. Sans...
Mais c'est vrai que la
qu'est-ce mélancolie... qu'elle évoque pour vous cette musique
la, en fait, la mélancolie des mélodies arabes, je trouve, elle dit beaucoup des sociétés arabes, je trouve. Mmh. C'est des musiques qui sont très complexes, en fait. Il y a des quarts de ton, oui. Des tiers de ton, des choses comme ça qui n'existent pas dans la musique. Qu'on écoute nous.
Oldelaf, tu confirmes?
Oui, parce qu'en plus, ce qui fait un mur aussi pour l'écouter, c'est dur de rentrer pour nous parce qu'on se dit, tiens, ça sonne faux. Ben oui, mais c'est parce qu'on n'a pas cette gamme aussi riche.
Mais toi, tu l'as pas.
En Occident, ouais.
Quand tu chantes, c'est vrai, moi, je me régale, là. Je me régale.
84, Riyad, c'est le déménagement en Syrie, dans ce village Terma Alley, c'est ça? Le berceau des Satouf, tel que vous en parlez. On a parlé des enfants, des cousins. Vous êtes confrontés pour la première fois aussi à une enfance différente. Vous dites que les cousins ne pleuraient jamais.
Oui, c'est vrai que c'était une société, une petite usine à fabriquer des garçons. Vraiment, le patriarcat dont on parle beaucoup aujourd'hui était vraiment à son meilleur, des petits soldats, voilà, c'est vrai. Il y avait quelque chose, en fait, ce qui est compliqué, en tout cas que j'ai essayé de raconter dans l'Arabe du futur, c'est que c'était pas une société qu'on pourrait qualifier d'islamiste ou d'extrémiste religieux. C'était vraiment plus proche de l'Union soviétique. Mmh. Voilà, les enfants, ils avaient des petits uniformes, ils chantaient l'hymne du pays, ils avaient des bérets, il y avait quelque chose
de
très...
Il n'y avait pas la notion de partage économique, il y avait quand même des familles qui dominaient financièrement tout le monde.
Oui, bien sûr, mais il y avait, c'était, le pays était organisé un petit peu comme un pays de l'Est, vraiment. C'est-à-dire, si on voulait un tracteur...
Je veux dire, le rêve du pays de l'Est et du communisme, c'était le partage.
Qui
n'a pas été vraiment.
Merci de me tenir au courant. C'est gentil. Je vois que le niveau d'estime est.
Merci. En même temps, Nagui, tu fais aucun effort.
C'était l'ambition.
Il s'en va pour de vrai. Au revoir, monsieur.
Il y a son infirmière qui vient d'arriver.
Iboud, c'est quand même incroyable.
Mais c'est des Égyptiens, ça. L'Égyptien Iboud.
Reviens.
Il va nous faire un claqueur.
Reviens. Bon, alors, on continue sans toi, tu es sûr. Il va revenir.
Il croyait au communisme, le pauvre.
Et voilà, il croyait au communisme, mais voilà. Riyad, bravo, franchement, vous avez traumatisé.
Ça, c'est...
Le communisme du futur, ouais.
Est-ce que vous pensez, Riyad, quand vous avez dit tout à l'heure qu'enfant, vous pouviez être un peu méchant avec vos frères, que ça pourrait venir aussi de cette enfance qu'on a pu observer dans l'Arabe du futur, où c'était dur à l'école, où c'était violent, où c'était vraiment... Est-ce que ça peut être aussi une résultante de ça? En quoi ça vous a affecté, vous aussi, ces allers-retours et ces séjours là-bas?
Moi, ça m'a rendu peut-être paranoïaque, je pense.
Ah, c'est vrai.
Voilà. Enfin, paranoïaque dans le sens, je suis toujours en train de juger physiquement les gens que je croise en me disant, est-ce que cet homme, je pourrais le battre physiquement ou est-ce qu'il va me taper?
C'est vrai, c'est ce qui vous passe.
Voilà, enfin,
souvent, la réponse est non.
Vous m'avez retiré ma chute. La réponse est, je me barre discrètement. Et donc,
vous pouvez sortir.
Je n'ai pas choisi la MMA comme le sport. Non, voilà, c'est vrai.
1998, vous écoutez. If you don't like my shit. Attends, stop, on s'est calé sur Suck My Dick. Ok.
C'est
à la demande de Riyad, hein, je crois.
C'est Eminem, j'adorais Eminem, oui.
Contrairement à tout à l'heure, vous comprenez les paroles ou pas?
Là, je comprends. Mais le début de la chanson était assez marrant parce qu'il imitait. Enfin, c'est marrant. C'est un type d'humour un petit peu osé, mais il imitait une sorte de vocable arabe tout au début. Et en fait, ce qui m'est bien, ce que j'aime bien avec Eminem, c'est que l'humour allait quand même vraiment extrêmement loin dans ce qu'il faisait. C'est plus vraiment. Enfin, il ferait plus. Enfin, quoi qu'il a fait un peu ça dans son dernier album quand même. Mais il y a plus personne ne fait ce type de truc trash qui va très très loin. Voilà.
Mais quand vous entendez justement des gens imiter ou parler arabe ou faire genre, ça vous choque, ça vous...
Moi, je suis désolé, Nagui. Je suis né en 78. J'adore les accents. Je trouve ça très drôle. J'adore les inconnus. J'adore les inconnus pour ça.
Bienvenue à la radio.
À cette époque-là, 98-2000, on va dire, c'est vous participez. Hein.
Attends, on a l'imitation de Eminem en arabe.
Oui, d'accord.
C'est un petit peu osé, c'est un petit peu...
C'est choquant. C'est choquant. Ah oui. Suivi par... c'est vrai, c'est vrai.
Moi j'aime l'enchaînement.
J'ai oublié.
On est en 18, vous participez à un concours de bande dessinée. Vous ne gagnez pas, mais vous êtes remarqué par un membre du jury.
Oui, oui, ça a été le début de ma vie d'auteur de BD. Et c'est vrai que j'ai eu la chance assez rapidement de trouver un éditeur. Alors, j'ai commencé comme dessinateur avant d'avoir le droit d'écrire mes propres histoires. Donc, c'était un style de dessin complètement différent. Oui. Mais j'étais enfin dans le monde de la BD. Et c'est vrai que j'aime bien raconter que j'ai d'abord signé un contrat de BD avant d'avoir une amoureuse, par exemple, de sortir avec une fille. Ah, la bande dessinée, mon premier amour. Mmh. Voilà, je sais pas, il n'y a pas de chute.
C'est pas grave. Ah, okay. Quand on en fait une à votre place, on crie au scandale, sinon il n'y en a pas.
Sortez rien.
Rien, ça tout.
Il est compliqué comme personnage.
L'arabe du futur, moi, Fadi, le frère volé, et justement, Élodie Bullon, maître. Élodie nous a rejoint. Bonjour, madame.
Bonjour.
Vous êtes avocate spécialisée en droit patrimonial et
en kidnapping.
Et extra-patrimonial de la famille. Ben oui.
Ça va pas être drôle.
Mais moi, j'ai appris, et je ne savais pas, si je voyage avec l'un de mes enfants, il faut que j'ai un papier de leur maman.
Oui. Vous autorisant à voyager.
Ouais.
Mais je ça
enfin, sauf si elle est là. Hein.
Oui, oui, mais merci. Qu'est-ce qu'ils ont tous là? Et le communisme, c'est pas bien, ok?
Oui, c'est mal.
Non. Et tous les parents ont ce réflexe où souvent à la douane, on se retrouve coincé avec « Ah ben, je savais pas qu'il fallait un papier, je l'ai pas complété. »
Oui, ça peut arriver, mais c'est vrai que certains pays sont moins stricts que d'autres. Mmh. Mais par exemple, pour aller à Londres, ils sont extrêmement stricts. Si vous n'avez pas une autorisation de l'autre parent, ils ne vous laissent pas passer.
C'est quoi? C'est un courrier, manuscrit qu'on peut contrefaire?
Une lettre avec une copie du livret de famille.
Ouais. Il y a aussi un formulaire que l'on peut faire quand l'enfant voyage seul.
Oui, mais en principe, une lettre suffit. Parfois même, ils se contentent d'un mot envoyé sur le portable. Enfin, ça dépend vraiment
donc
des frontières. Il vaut mieux avoir.
Facile à contrefaire.
Un mot sur un portable, oui, ça peut être facile.
C'est déjà arrivé à certains clients qu'on accepte. Ça dépend des pays aussi.
Juste une petite question, mais est-ce que quand on quitte la France, est-ce qu'à la douane française, contrôle les passeports, ils vérifient que...
Non,
ça dépend.
Bah non,
ça dépend.
Il n'y a pas de douane.
Pas l'Europe, quoi.
Bah oui.
Schengen. D'ailleurs, il y a des parents pour enlever les enfants. Ils passent par l'Europe et ils vont dans des pays où c'est plus facile de partir.
C'est pour ça qu'elle garde
un bon conseil, ça, maître.
Je suis là.
Merci.
Justement, est-ce qu'il y a beaucoup de cas d'enlèvement d'enfants?
En moyenne, il y en a un par jour. Ça veut dire que chaque jour, il y a un enlèvement. Mais si on fait la somme, moi, il y a beaucoup de...
C'est fou.
Pour des raisons très différentes.
C'est quoi les principales raisons?
En gros, il y en a deux. Enfin, il y en a deux. Il y en a énormément. Mais souvent, alors en plus, on a des axes. C'est-à-dire, l'axe nord-sud, c'est plutôt les pères qui enlèvent les enfants, comme dans le cas de Fadi, pour forcer la mère à rejoindre
le pays.
Voilà, c'est un moyen de pression. Ouais. Et c'est vrai qu'on prend l'enfant le plus facile à enlever.
Donc le plus petit, généralement?
Parce que les grands...
Le plus faible, en tout cas.
Oui, alors il peut arriver que des plus grands soient complètement instrumentalisés par le parent qui enlève et suivent. Et là, c'est vraiment très difficile de les faire revenir.
Garçon-fille, de la même façon, ou là aussi, il y a une faiblesse
encore
plus?
Celui qui est là et qui est le plus manipulable.
D'accord.
Et dans les pays Est-Ouest, par contre, c'est les mères qui enlèvent. Et il y a des pays, on le dira par la suite, mais il y a des pays où c'est très compliqué de retrouver les enfants, enfin de les récupérer, c'est en Russie par exemple. Et c'est vrai que les mères russes et toutes les mères de l'Est enlèvent assez facilement les enfants, c'est pas non plus tous les quatre matins, mais les enlèvent parce qu'elles veulent retourner dans leur pays et qu'elles craignent qu'un juge français ne leur donne pas la résidence.
Ah oui.
Voilà, donc elles partent en vacances voir leur famille et puis elles restent là-bas.
Donc à chaque, entre guillemets, enlèvement, il y a un contexte différent, il y a une histoire différente, ou il y a quand même des grandes lignes communes à...
En fait, c'est un peu comme les séparations, chaque histoire est différente, et en même temps, chaque cas est très différent, parce qu'il se joue plein de paramètres sur la personnalité des gens, sur la manière dont ça va être fait, sur ce qu'on attend de la réaction de l'autre, sur ce qu'on attend du pays dans lequel on va.
Bien sûr.
D'ailleurs, c'est ça qui est passionnant.
Les lois étant totalement différentes, j'imagine que... Alors vous traitez ce genre de dossier?
Nous, au cabinet, on fait tout ce qui est droit de la famille et on a pas mal d'enlèvements d'enfants.
Wow.
Et sachant que ça passe par les autorités centrales, c'est-à-dire que c'est assez bien organisé théoriquement. C'est-à-dire que la convention de La Haye, il y a quand même 103 pays signataires, et à l'époque, enfin, la Russie ne l'était pas. Et si jamais on est dans le cadre de la convention de La Haye de 80 ou d'une autre convention qui est une convention de 96, là, il y a ce qu'on appelle des autorités centrales. Donc la personne qui est victime d'un enlèvement d'enfant doit contacter l'autorité centrale, d'accord, qui est une autorité centrale désignée dans chaque pays, en France, au ministère de la Justice, et qui va appeler l'autorité centrale de l'autre pays. Et là, tout dépend sur qui on tombe. Il y a des pays dans lesquels c'est pas du tout organisé. Il y a des pays qui sont contre-foot. Voilà.
Et normalement, combien de temps? Il s'écoule combien de temps? Ça peut être hyper long, en fait.
Ouais. Alors, en principe, enfin, en France, la réaction est assez rapide.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils appellent assez rapidement. Le degré de réaction va dépendre d'un pays à l'autre. Alors, mais
pardon,
sur papier,
pardon, vous dites la France appelle. C'est-à-dire, un parent se fait, enfin, un enfant est kidnappé en France. Enfin, je ne sais pas si le mot kidnapping est le plus approprié.
Non. En fait, on parle de déplacement ou de rétention illicite. On parle même pas d'enlèvement.
À ce moment-là, la mère ou le père qui se retrouve seul va au commissariat, porte plainte, va voir le ministère des Affaires étrangères, enfin, qui s'occupe de contacter le pays. En plus, c'est j'imagine, c'est une nébuleuse, c'est-à-dire qui appeler, comment rechercher, comment retrouver l'enfant et comment résoudre le problème.
Là, alors, le premier réflexe, en principe, quand ça arrive, c'est d'aller voir soit on va vite au commissariat,
d'accord,
soit on va voir un avocat, ce qui est un assez bon réflexe, je dois dire. Et le parent pourrait le faire d'ailleurs lui-même s'il était informé, c'est d'appeler l'autorité centrale au ministère de la Justice.
D'accord.
On appelle le DEDIP. Okay. On appelle donc le DEDIP, et donc c'est l'autorité centrale française qui va appeler, d'accord, le pays, l'autorité centrale dans le pays où l'enfant a été enlevé. Et là, l'autorité centrale en question a l'obligation, sur le papier, de rechercher où est l'enfant. S'il pense qu'il est dans un autre pays, déjà, de recontacter l'autre autorité centrale.
Vous dites sur le papier, ça veut dire que c'est pas le cas?
Il y a des pays dans lesquels ça fonctionne vraiment très bien. Alors, donc, dans lesquels ça fonctionne très bien, et le pays en question va rechercher l'enfant.
Alors, quelle est la solution? C'est-à-dire que, oui, ils vont chercher l'enfant, et ils vont dire il faut qu'il y ait un procès, comme un divorce, avec une garde partagée, avec... Là, mais comment faire une garde partagée quand il y a des milliers de kilomètres?
En fait, il y a l'obligation de retourner l'enfant tout de suite, c'est-à-dire qu'un juge doit être saisi, dit que l'enfant doit retourner dans son pays, d'accord, donc c'est une décision qui doit s'exécuter par le parent qui a enlevé l'enfant, et à ce moment-là, c'est le juge du pays de résidence qui va décider si oui ou non l'enfant peut partir. Parce que, en fait, le problème dans ce cas-là, le parent n'a pas demandé l'autorisation au juge de la résidence.
Oui, mais chaque parent peut dire que c'est l'autre qui l'a enlevé. C'est-à-dire, à quel moment on dit que la résidence est le lieu normal d'un enfant, c'est forcément... Prenons des pays occidentaux pour pas qu'il y ait de sous-entendus ni religieux, ni politiques, ni belliqueux.
France-Danemark.
Non, c'est l'Europe, ça. Donc,
il faut un pays en Europe.
Alors, c'est peut-être l'Europe, hein.
États-Unis, France.
Ouais.
Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Un couple, généralement, deux nationalités différentes, c'est ça?
Oui, en général, oui, parce qu'il faut un attachement à notre pays.
D'accord.
Sinon, ça pas beaucoup de sens.
Donc, il y en a un qui part avec l'un des enfants ou avec l'enfant unique. Comment trancher en disant, oui, il est plus américain ou plus français, c'est plus là son lieu de résidence que l'autre? Est-ce que la maman est entre guillemets, a un poids différent dans le jugement?
Non, alors, en principe, les parents sont traités de la même manière.
D'accord.
En fait, comment on le sait, c'est qu'à l'origine, il faut une décision. C'est-à-dire qu'il y a un juge qui a dit la résidence de l'enfant, c'est ici. Et c'est parce que...
Et lui, il se bat sur quoi?
Parce que les parents se sont séparés, il y en a un qui a saisi un juge, juge a décidé la résidence habituelle de l'enfant. C'est la notion de résidence habituelle est dans ce pays. Et l'autre prend l'enfant, ou alors ce qui se passe le plus souvent, parce que c'est ce qui est le plus facile, c'est la rétention illicite. C'est par exemple, je dis tiens, je vais aller voir ma grand-mère aux États-Unis. Le père dit oui, super.
Et je reviens.
Et
pas.
La mère va aux États-Unis, elle ne revient pas.
Okay. Bon.
Sauf que le pays de résidence, c'est la France, puisque le juge a décidé que la résidence habituelle de l'enfant, c'était en France. Donc dans cette hypothèse, les États-Unis, saisis par la France à ce moment-là, l'autorité centrale, doit dire décision de retour par un juge, décision de retour, et l'enfant doit revenir en France. Et là, la mère et le père vont devoir repasser devant le juge français en disant finalement, il y a un changement de résidence. Voilà, alors ce qu'on invoque souvent, c'est
danger. Ça prend combien de temps tout ça?
Alors, parler de temps et de justice en France, c'est quelque chose de peu compliqué.
C'est marrant comme votre voix descend.
Je parle de ça, quand je parle de ça, je suis très gênée. Mais ça peut prendre plusieurs mois. Et d'ailleurs, c'est la difficulté, c'est qu'une fois que l'enfant Oui. Et dans un pays, il est petit, il s'est acclimaté, bah les juges disent « Ok, c'est horrible, on est vraiment désolé pour vous, mais on ne va pas à nouveau bouleverser ses repères. » Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de retour.
Ah, le juge peut dire ça, alors que le parent a pris l'enfance en sciemment, en sachant qu'il voulait rester dans un autre pays.
Oui, parce que le prisme, c'est toujours l'intérêt de l'enfant.
Attendez, on va se menotter à nos enfants, là, demain, en fait, après ça.
Ça, c'est un bon conseil.
Ok.
En général, pardon maître, ça finit comment ?
Hyper mal.
Non mais comme vous le dites là, c'est pas très optimiste. C'est-à-dire qu'on a l'impression que au-delà d'un certain délai, les juges baissent les bras en disant c'est bon, il s'est acclimaté, et maintenant son vrai chez lui, c'est le nouveau pays où
il est. D'abord parce que ça dépend des pays. Enfin je veux dire, il y a quand même pas mal de fois où ça se passe très bien. Et où le juge, enfin, quand le système fonctionne, je veux dire, même si au bout de 9 mois, on considère que l'enfant est parti, on le fait revenir. Et souvent, ce que va dire la mère qui enlève l'enfant, par exemple, c'est moins un argument des pères, d'ailleurs, ça. Qui, eux, ont des arguments d'autorité en disant, t'as qu'à venir, cocotte, parce que sinon, en fait, tu reverras pas. Et comme c'est dans des pays où c'est plus compliqué. Wow. Ça marche moins bien. Mais
on,
la mère.
On dit plus, dit... cocotte, hein. On arrête les cocottes.
À mon avis, ce genre de
cocotte.
Oui.
Ce genre de profil, oui, d'avenir cocotte.
Ou ma poule, ça dépend. Ouais. Mais les mères, souvent, elles disent que c'est parce que l'enfant est en danger, parce qu'elles-mêmes, forcément, ont aussi été victimes de violences. Et ce qui est d'ailleurs parfois tout à fait vrai. Hein. Mais sauf qu'on leur dit, ok, mais en fait, vous avez un juge français, allez lui demander, allez lui établir que vous avez été victime de violences. Et à ce moment-là, la résidence sera en Danemark ou en Suisse, voilà.
Merci, maître, d'être venu à ce micro. Ouais, Élodie Mulon, qui fait partie du cabinet, parce qu'il y avait un Chauveau qui arrivait, donc il y avait beaucoup de hauts. Cabinet Chauveau Mulon Associé, merci mille fois.
Voici Warren Michel.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Cette semaine, j'ai fait un truc bizarre qui ne se fait plus normalement. J'ai parlé à une voisine. Voilà. À Paris, en tout cas, c'est interdit dans le code de la vie. T'es pas censé communiquer avec autrui. Mais je vous rassure, et là, je m'adresse aussi au juge en charge de cette affaire. Il y avait un contexte. J'étais dans l'ascenseur, elle est entrée, on s'est dit bonjour. Puis, comme j'avais une poussette, parce que j'aime bien me déplacer assis, je conduisais ma descendance dans une yo-yo GTI toute option. Voilà. D'ailleurs, à la base, on prend une yo-yo parce que ça prend pas beaucoup de place. Ouais. Mais quand t'as fini d'assembler tous les accessoires, c'est une mini Fiat Punto que t'as. Alors moi, j'avais toit ouvrant, siège chauffant, pare-soleil, enfin la totale. Et là, il y a un truc qui se passe quand t'es en poussette. Les gens se permettent de jeter un coup d'œil sans te demander la permission. Voilà. Même quand c'est couvert, ils se penchent pour voir un peu ce qu'il y a. Et alors que c'est personnel, tu sais, moi, j'ai pas envie spécialement qu'on puisse voir mes courses. Parce que c'est tout ce que tu vas voir essentiellement. Car pour moi, une poussette, c'est avant tout un caddie qui roule bien et que tu peux emmener partout avec toi. Alors oui, il y a un bébé en dessous qui essaie de remonter à la surface. Mais avant de voir le mini-moi, il faut enlever 2 rouleaux de sopalin, une praline bien cuite, un parapluie, 13 biberons à moitié entamés et une salade bio qui se demande elle-même ce qu'elle fout là, sachant très bien qu'elle aura la même carrière que Ben Arfa, gros potentiel mais jamais sollicité. Bref, la voisine donc se penche en mode smooth criminal et elle arrive à voir entre 2 paquets de chips le mini-moi et me dit « Il a quel âge ?» Soit quoi, je réponds « Elle a 6 mois ». Et elle fait « Ah, je suis vraiment désolé, vous savez, à cet âge, c'est difficile de distinguer les garçons des filles. » Et je lui dis « Ne vous inquiétez pas, je comprends. En plus, vous avez raison, il est né lui, elle est devenue elle, à 3 mois. » Et là, elle fait « Quoi ?» Elle avait 60 ans, donc elle est un peu perdue. Et moi, je ne dis plus rien après, pour bien laisser le malaise s'installer. Et elle fait « Waouh, c'est incroyable, c'est exactement comme moi. » Et je fais « Quoi ?» Toi aussi t'as switché il y a 3 mois. Et en fait elle m'a terminé à mon propre jeu. Elle me regarde et elle drop son dentier. Et du coup je panique. Je décide de sortir au prochain arrêt de l'ascenseur. Mais c'est ma voisine. Donc elle me dit, elle sait où j'habite. Elle me dit c'est pas votre étage. Et moi jouant le tout pour le tout, je fais oui. Mais en fait on lui a pris un appart toute seule. Donc je la dépose et je remonte. Donc là je regagne la partie. Elle prend son dentier et depuis on s'évite. Donc la morale de cette histoire c'est quoi? Venez on se parle un peu plus entre voisins avant d'oublier comment tenir une conversation de courtoisie normale.
Merci. Wow. Guy Pastureau, bonjour. De Coucou. Quoi allons-nous parler?
Je vous parlais des injonctions. Nagui, il y en a une assez forte pour nous les stars, enfin vous quoi. Hein. C'est celle d'être présent sur les réseaux sociaux pour ses followers.
C'est le meilleur de la bande originale avec Léa Cadeau Boudadi et avec Daniel Morin. Yes.
Et aujourd'hui, il est ici chez lui, c'est Riyad Satouf.
Ah, il bouge pas physiquement, Satouf. Hein. Il a toujours eu l'air vieux.
Ouais. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Moi, Fadi, le frère volé, comment faire rire à partir d'un enlèvement d'enfant? C'est ce que vous réussissez à faire. Et avec malice, parce que même si on a vu et on lu et aimé l'Arabe du futur, votre histoire, c'est comme si nous-mêmes nous retournions aussi au pays.
C'était l'idée
de voir l'évolution aussi des mentalités, vous parlez des boutiques d'informatique, de jeux vidéo.
Et c'est vrai que l'histoire de Fadi est tellement, moi, ma surprise quand il m'en a parlé, parce que je pensais que mes histoires, à moi, avaient quelque chose un petit peu, entre guillemets, parce que je suis mégalo, mais de définitif. Et les siennes étaient encore plus, je sais pas comment dire, elles étaient encore plus intenses. Je sais que ces BD autobiographiques, en fait, c'est une manière pour moi, qui ne suis pas très courageux, d'aller dans l'histoire de ma famille d'un point de vue personnel, mais d'emmener avec moi les lectrices et les lecteurs. C'est-à-dire, ça me plaît qu'il y ait autant de gens qui s'intéressent à cette famille. Donc je me dis, ah, quand même, toutes ces histoires, c'est chaud quand même. Mais en même temps, il y a plein de gens qui sont avec moi.
Alors moi, ce qui m'a frustré, c'est de ne pas se rendre compte aussi de, entre guillemets, de la perte d'un frangin, de la réaction de votre maman au quotidien. Ça devait être tellement dur.
Cette réaction-là, elle est présente dans les Arabes du futur.
Oui.
Moi, je voulais vraiment justement placer le lecteur et la lectrice dans le rôle de Fadi. C'est-à-dire, soudain, l'environnement change complètement. En effet, il y a tout un pan de la famille qui a disparu, on ne sait rien.
Et je m'habitue, finalement.
Et finalement, au bout d'un moment,
je l'oublie, un peu.
Le monde devient...
Mais il a quand même quelques cauchemars, quelques crises de larmes où il réclame sa maman.
Oui, c'était obligatoire de dessiner quand même un peu ça. Je pouvais pas faire autrement que de quand même le mettre en scène parce que ça, c'est arrivé.
C'est déchirant. Ouais.
Et c'est vrai que après, c'est bien. Je me suis entraîné à essayer de dessiner des petits enfants qui pleurent. C'est pas si facile à faire.
Pourquoi ?
C'est difficile à dessiner les larmes parce qu'en fait, il y a plein de formes de pleurs différents.
Alors, est-ce qu'on fait une fontaine avec des larmes
c'est
partout horizontales?
Manga, voilà. Mais ça on trouve des limites rapidement parce qu'il y a les sanglots aussi qui sont retenus. Donc ça va faire. Comme ça, ou la petite
le menton qui
comme ça. Ouais. Et c'est vrai que bon, moi,
comment le dessiner alors voilà. C'est un zoom sur l'œil, le rendre humide.
C'est un défi. Et alors, sais que comme mes enfants, bon, ils pleurent quand même de moins en moins, mais j'en ai un qui a 7 ans et de temps en temps ils pleurent.
Vous les avez fait pleurer volontairement.
Tu me sers de modèle. Prends-toi ça.
C'est vrai qu'il y a quelque chose de touchant dans les larmes des enfants. C'est pas toujours les mêmes du tout. Il y en a certaines qui sont très rentrées. Ils essaient de dominer ses sanglots, etc. Donc c'est intéressant graphiquement à essayer de bon voilà, moi je trouve.
Qu'est-ce que ça fait phrase de psychopathe.
C'est monstrueux.
Est-ce qu'il y a des parties des parties du corps qui sont difficiles à dessiner.
Voilà.
Vous avez du mal à.
par exemple. Sur autre chose. Là, c'est autre chose.
Vous avez l'esprit. Vous dessinez les bras, les jambes comme d'un bloc.
Oui. Mais alors après, c'est vrai que j'essaye quand même d'avoir un style de dessin le plus expressif possible et de pas être trop réaliste. Enfin, je fuis le réalisme déjà parce que je veux qu'on s'attarde surtout sur l'histoire et sur l'expressivité de l'ensemble. Non, j'ai pas tellement. Ce qui m'embête le plus à dessiner, c'est les scènes à table. J'ai horreur de tout ce qui se passe à table. Il faut faire une table avec des assiettes, avec des verres.
Donc c'est quoi, c'est la perspective
Oui, parce qu'en fait, mais c'est drôle parce que c'est pareil quand on fait un film. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir faire des films et c'est super compliqué de filmer un dîner. Vous savez, pour mettre la caméra, pour avoir les gens qui vont intervenir, qui vont faire. Et à chaque fois que dans mes BD arrive le moment où ils sont ou au resto ou en train de manger, je me dis, oh purée, mais en même temps, il faut le faire.
Riyad Satouf, moi, Fadi, le frère volé, aux éditions Les Livres du Futur. Le tome 1 est actuellement disponible de 86 à 94. 1 sur 3, entre guillemets, d'après ce que vous nous avez annoncé. Voici Tanguy Passion.
Récemment, j'ai eu envie de faire un truc que les gens font plus trop, donc j'hésitais entre manger des abats, acheter un caniche ou regarder la télé. Et j'ai regardé la télé, il était 20h20, j'ai mis France 5, par réflexe, parce que c'est sur cette chaîne que je brillais la saison dernière.
C'est
après,
vrai.
En général, on me mettait de la poudre et ça passait. Je tombe sur C'est à vous, l'émission où des gens effarés apprennent que ce soir, c'est encore un plat déstructuré. Il y a 3 lardons, un pot de crème, le chef explique qu'il s'agit d'une quiche Lorraine revisitée. Ce qui ne veut pas dire que la famille Nadine Morano est enfin revenue la voir dimanche, c'est un plat. Oui, voilà, j'ai vérifié. J'avais pas fait de blague sur Nadine Nadine Morano depuis avril 2016. Ah ouais. D'accord, ça ne manquait à personne, mais j'ai bien le droit de sombrer dans la nostalgie. Je veux dire, tout était plus simple il y a 10 ans. On n'était pas là à guetter les réactions de la fachosphère ou des woke qui valident ou pas. L'humour, c'était basique. Sarkozy, il est petit, Hollande, il est gros, Morano, elle est con, Hervé Leur, elle est cocu. Et ça roulait. Un quart d'heure d'écriture par France, 5 minutes de chronique. Une vanne sur ce que Dominique Strauss-Kahn a dans le calbut en bonus. Quand sur scène, vous fusez ce sketch intitulé Le Bazooka ADSK. Ça partait sur une standing ovation qui s'arrêtait pas. Il fallait tirer au flashball dans les jambes des gens pour qu'ils se rassoient. La vie d'humoriste était simple. Maintenant, il faut faire des papiers drôles et tendres à la fois, caustiques et engagés, ne plus se moquer des minorités. Alors que, comme le dit Daniel, vu le nombre de noirs qu'il y a maintenant, est-ce qu'il s'agit encore d'une minorité? Bref, je suis tombé sur C'est à vous l'autre jour. En invité, il y avait Doria Tillier qui a une carrière exemplaire. Elle a débuté à la météo et aujourd'hui, elle lance sa série. C'est autre chose qu'Evelyne Delia, cette feignasse qui a passé toute sa vie à cacher la Bretagne avec son brushing 400 normes en 38 ans de météo. Des gens qui n'ont pas su qu'il allait avoir du vent, ce qui est le principe même de la Bretagne, et qui se sont pris une chute d'arbre. Donc tout se passe bien, Doria Tillier parle de sa série, quand soudain, c'est au tour de Mohamed Bouafzi, qui est l'homme aux dents les plus blanches de France. Cyril Fureau à côté, c'est un gueux du 9e siècle. Quand Mohamed Bouafzi parle, en régie, il coupe 4 projecteurs, sinon la lumière se reflète sur sa canine, ça crée un effet loupe. S'il se retourne vers Anne-Elisabeth Lemoine, il y met le feu. Et là, Bouafzi parle à Doria Tillier du fait qu'elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Un bandeau s'affiche même à l'écran avec marqué « Doria Tillier déconnectée ». Tous hallucinent, parce que dans nos métiers, c'est une obligation d'en avoir. Pierre Lescure danse sur TikTok. Patrick Cohen poste des photos sur Instagram de ses vacances. On le voit en maillot de bain dans le hall de l'AFP parce qu'il n'arrive pas à sortir du travail. Mais Doria Tillier, rien. Et elle dit « ça ne m'intéresse pas ». Et on sent qu'autour de la table, c'est vécu moyennement bien. Les gens se disent « mais pour qui se prend-elle ? Eh oh ! Demain, elle va faire quoi ? Regarder quelqu'un dans les yeux quand elle lui parle ? Au lieu de checker ses notifications ?» Et moi, j'étais bluffé et envieux. Non pas que je sois contre les réseaux sociaux, j'ai moi-même ce compte OnlyFans breton avec des vidéos payantes où je porte juste au niveau du pubis une craque complète. Je fais payer plus cher les vidéos où l'œuf me coule un peu sur la cuisse. Mais je trouve qu'en 2024, ne pas avoir de réseau, c'est un pied de nez aux injonctions parce qu'il y en a tellement dans nos métiers. Il faut poster tout le temps des dates de spectacle, des liens vers billets réduits, des instantanées de vie avec une punchline. Il faut faire des vidéos de moins d'une minute, sinon le public il zappe des crossovers avec d'autres humoristes pour aspirer leurs followers. Le but étant d'avoir 10 cas de gens, puis 100 cas, puis 200. Et parfois on lève les yeux de son iPhone, on a 300 cas d'abonnés, mais autour dans la pièce, personne. On est seul, on va crever. Parce qu'il n'y en a pas un dans nos 300 cas qui saura qu'on va mal. Ils seront passés sur la story de Michel Barnier chez Damar, hein, sa collab avec Jordan Bardella, dans laquelle Bardella a mis un Damar trop petit pour faire encore plus ressortir ses pectoraux. Cet abonnement au Cercle de la Forme a été bien rentabilisé. Autour de moi, j'observe. Tel humoriste se force à faire des vidéos parce que sa prod l'oblige à le faire. Une comédienne m'explique qu'à réussite à un casting comparable, ils ont pris celle qui avait 80 000 followers plutôt qu'elle qui en a 250, puisque les projets se monte là-dessus. Ta force de frappe, c'est ton public calculé en kilogens. Pas toujours. Moi, j'ai 24K sur Instagram, les internautes m'ignorent. Bon, si demain, je fais une vidéo pour dire que je suis au théâtre Tristan Bernard à Paris, le jeudi, vendredi et samedi, et ce jusqu'au 21 décembre, franchement, je vendrai 4 places. Voilà, sur Internet, je suis moins actif que Mike Brandt, qui est mort en 1975. Donc, je me sers de France Inter pour dire tout ça. En plus, je suis payé. Je suis le plus gros escroc du monde. Je pense que si j'envoie ma salive pour une analyse ADN, ils vont me trouver un lien de parenté avec Bernard Madoff. Attention, point réac, les gars. C'était mieux avant. Tu étais artiste, autour de toi tu avais un staff, une attachée de presse qui s'occupait. Toi, tu t'occupais de l'artistique, c'est-à-dire que tu prenais la drogue en portant des potes bêtes. Maintenant, on est là en story à quémander de l'attention, de l'amour. Ne m'oubliez pas les chéris, merci pour vos DM, je vous kiffe. À part Daniel Morin qui a juste un vieux Facebook en cours de décomposition, sur lequel il n'a rien posté depuis 2021. C'est véridique, la dernière chronique de lui là-dessus, il a un masque contre le Covid. Celle d'avant, il parle de l'élection de François Mitterrand qui s'est déroulée la veille. Daniel s'en fou. Il a signé un contrat sur 28 ans avec Radio France pour un total de 710 euros et il n'a pas de tournée à remplir. Je pensais à tout ça quand, ébloui par les dents de Mohamed Bouafzi, j'ai commencé un AVC. J'ai donc éteint la télé en me disant que Doria Tillier n'était pas en train de scroller ses comptes pour voir si les gens l'aiment. Sans doute s'en fiche-t-elle. J'aimerais tellement avoir cette force en moi et moins dépendre du regard de tout le monde.
Merci. La bande originale d'Oriane Satouf continue juste après Chapel Rowan avec Good Luck Babe.
It's cool.
C'était Good Luck Babe de Chappell Roan. C'est sur Inter que vous étiez dans la bande originale. Des événements culturels autres que la sortie de Riyad Satouf et de cet arabe du futur.
Oui, on va parler d'une opération derrière le comptoir qui a lieu dans une librairie, la librairie de Saint-Pierre à Senlis. C'est une fois par mois le samedi, d'après vous. Que se passe-t-il une fois par mois dans cette librairie?
On boit et on lit.
Non, on pourrait, mais non. Derrière le comptoir.
Bah oui.
Les auteurs qui viennent vendre les livres.
Bravo.
Ouais.
Alors, c'est quasiment ça. En fait, c'est une librairie qui a été fondée en 1895 et qui est sur le point de sombrer. Pour attirer du public, en fait, les propriétaires se sont dit, parce qu'il y a beaucoup de librairies qui vont très très mal. En fait, on a l'impression qu'il y a eu plein de librairies qui se sont créées après le Covid, mais en fait, le secteur est vraiment en crise. Et les propriétaires de cette librairie Saint-Pierre à Senlis, comme ça, on leur fait un petit peu de pub, pour attirer du public, se sont dit, il faut qu'on fasse un coup. Donc, ils ont demandé à des personnalités, pas forcément des auteurs, de venir tenir la librairie un samedi par mois. Donc, il y a Olivia de Lamberterie, Flavie Flamand, Isabelle Carré, Mathias Malzieux qui se sont déjà proposés et qui vont venir jouer au libraire d'un jour pour faire en sorte qu'il y ait du monde déjà qui vienne et que les clients reprennent le chemin éventuellement de cette librairie. J'imagine, Riyad Satouf, que votre venue dans une librairie, ça doit être une aubaine, un événement. Est-ce que vous continuez à faire la tournée des librairies? Parce que vous êtes très occupé, il y a les salons du livre. Ça demande du temps.
Ah oui, mais c'est génial. Moi, je sais que je continue. Là, je vais faire une tournée pour la sortie de Moi, Fadi. Et donc, j'adore aller rencontrer les lectrices et les lecteurs. Et c'est vrai que, en fait, bon, moi, ça fait 20 ans que je fais des BD. J'ai passé quand même 15 ans avec personne à ma table.
Ouais,
donc, maintenant qu'il y a plein de gens, je suis hyper content. Et plus, c'est vraiment, il y a un truc onirique. C'est des défilés de gens qui viennent me dire qu'ils m'adorent.
Et vous êtes quoi? À une table? Et vous dédicacez? Ou vous êtes debout et vous parlez? Est-ce qu'il y a un côté masterclass par moment?
De temps en temps, il y a des rencontres. Oui, c'est très sympa. Donc, il y a quelqu'un qui pose des questions et même le public peut réagir. Et c'est vrai que ce qui est drôle dans les librairies, enfin, ce qui est drôle, c'est qu'il y a vraiment une communauté à chaque fois. C'est-à-dire, tous les clients de chaque librairie, ils y viennent tout le temps. Ouais. Ils sont très fidèles. Ils adorent rencontrer les autrices et les auteurs. C'est une manière pour eux, d'ailleurs, d'être en lien avec la vie culturelle. Il y a quelque chose de génial. Moi, j'adore faire ça.
Et il y a beaucoup de librairies qui appellent à l'aide en ce moment. Et donc,
notamment à Senlis.
Notamment à Senlis, donc si Riyad... Non, je connais pas. En tout cas, voilà, cette opération derrière le comptoir, c'est l'occasion d'acheter des bouquins et puis éventuellement rencontrer des artistes. Voilà, c'est quand même une aubaine.
Est-ce qu'on peut parler de marque, Riyad Satouf? Vous avez créé l'Arabe du futur, vous avez créé Esther, vous avez créé le jeune acteur. C'est-à-dire que vous avez installé, comme dans les séries télé, des... Je sais pas quel autre terme employer que marque, mais ça ressemble à ça.
Ben ce qui est compliqué, en fait, en tout cas pour moi, dans mon expérience d'auteur de BD, c'est alors peut-être c'est un marqueur de personnalité ou du fait que mon ego a augmenté au fur et à mesure des années. Mais comme je passe ma journée à ma table à dessin, en train de dessiner, il faut que ça m'apporte quand même quelque chose. Est-ce que je dirais spirituellement ou personnellement, disons. Et donc c'est pour ça que je ne peux plus faire que des histoires qui sont entre guillemets reliées à ma vie, comme vous disiez tout à l'heure. C'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, quand je rencontre quelqu'un, vous dites ah, vous allez me mettre dans une BD, mais c'est un petit peu vrai. Alors je le ferai pas automatiquement, mais c'est une manière de quand on vit quelque chose ou quand on a quelque chose.
Mais pardon, votre force, c'est de ne pas créer des personnages, même si c'est vous qui étiez le personnage central de l'Arabe du futur, mais la marque maintenant l'Arabe du futur. Devient plus forte et elle peut servir aussi bien pour votre frère que pour vous. De la même manière que le jeune acteur, c'était pour Vincent Lacoste, est-ce que ça va servir à d'autres acteurs, toujours sous le label le jeune acteur?
Je suis un fan de Star Wars et du Seigneur des Anneaux.
Ah, wow.
Donc il y a eu le Silmarillion, il y a The Mandalorian, bon, il y a l'Arabe du futur. Je me suis dit, ça pouvait être un univers, c'est le Satouf Comic Universe. comme le Marvel.
Ça va sinon?
Mais tout a été déposé.
Et le jeune acteur revient?
Oui, alors on est dessus à fond, on va essayer en juin prochain.
De le sortir?
Oui.
Ah oui, bah je vais essayer.
Je vais essayer.
Mais
de
ça veut dire que ce sont des entretiens avec Vincent Lacoste?
Oui, puis là, vraiment, il vit plein de trucs. On avait déjà écrit une première version au moment du tome 1, et là, on va rajouter des choses. D'ailleurs, il y aura une petite surprise dedans. Non, voilà, on est dessus, là, on est à fond.
Très bien. Il y a quelques jours, à ce micro...
On y croit, on est à fond avec lui. Riyad, on t'embrasse, vas-y, boss, on t'attend, là.
Bernard Campan déclarait qu'il attend finalement un film, en fait.
Oui. Oui, oui, mais c'est, je suis, alors justement.
Vous dites toujours que vous êtes à fond, mais en fait, vous êtes à fond sur plein de trucs.
Ben
non, en fait.
Bah oui, c'est ça.
Non, alors, oui. C'est ce qui est très compliqué pour moi. Je suis mal à l'aise de parler de quelque chose qui n'est pas encore fait. Mmh. Et je suis à fond sur le projet des Inconnus. On va tourner. We're gonna shoot the movie.
Il faut le décrire avant ça.
No, it's written. I'm rewriting the script and everything is on track.
Vous voyez, vous parlez arabe.
Yes. Il y a Vincent Lacoste dedans.
Il y a Vincent. Je peux pas vous dire justement. En fait, il faut pas que j'en parle parce que après, vous savez, c'est comme je parle jamais de mes projets, de mes livres parce que je peux lire dans les yeux des gens des micros. Truc qui faudrait dire genre déception, je sais pas quoi.
Okay. Est-ce que les Inconnus sont au courant? Oui. Parce que, écoutez bien.
On y croit, on est à fond avec lui. Riyad, on t'embrasse, vas-y, boss, on t'attend là.
Il n'a pas l'air au courant, hein?
Non, bien sûr, on est à fond dessus, mais c'est en approche.
À fond doucement.
Très bien, des excuses à
bien sûr. Déjà, désolé, bah pour vous, cher Nagui, hein, Nagui qui a découvert ce matin que. Staline était mort. Oh là 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 là. Choqué. Que le mur de Berlin était tombé. Oh, que Georges Marchais ne serait jamais le prochain président de la République. Regardez, il est tout perdu, le pharaon bolchevique. Désolé pour Fadi, Esther, Pascal Brutal. Bref, tous les héros qui ont été abusés, tambourinés, volés financièrement par cet escroc de Riyad Satouf. Oui, c'est un pervers. Il est redoutable. C'est génial. Ça me plaît beaucoup. Riyad, il se passe quelque chose entre nous. Et pourtant, je suis pas communiste.
Les livres du futur, votre boîte d'édition publie donc l'arabe du futur, moi, Fadi, le frère volé. Est-ce que vous allez publier d'autres auteurs de BD?
Oui, tout à fait. Ah. Oui, des jeunes qui autrices et jeunes auteurs. Bah, je vais quand même pas vous le dire, parce que ce sont des jeunes tout plein de vie.
Ils sont pas au courant. Et
il n'y a pas envie de lire la déception.
On est à fond avec lui. Riyad, on t'embrasse, vas-y, boss, on t'attend.
Tout le monde vous dit, bah, on t'attend.
Non, mais voilà, mais oui, il y a quelques projets, tout à fait.
Et sur quels critères vous les choisissez? C'est-à-dire que quand ils font quelque chose dont vous n'êtes pas capable, ou au contraire, dans votre famille?
Alors, j'ai la chance, jusqu'à présent, comme mes livres ont du succès, de ne pas être tenu d'essayer d'avoir quelque chose de productiviste, pour revenir au communisme.
De rentable.
Voilà, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est essayer de voir si je peux aider des jeunes à faire des livres meilleurs. Un peu, de me dire quel type d'éditeur j'aurais aimé rencontrer quand j'étais plus jeune. Oui. J'ai rencontré des super éditeurs, mais je me dis, bon, ils auraient pu faire d'une certaine façon ou une autre. Et voilà, j'aimerais être cette personne-là.
En laissant plus de temps, en aidant plus financièrement, passe par quoi, des meilleurs éditeurs?
Je dirais des conseils, une vision globale sur la BD, sur le rythme, c'est vrai que les jeunes, souvent, ils sont pleins de vie. Alors déjà, en fait, écrire un livre, c'est plus compliqué que de faire juste une case ou un petit dessin. Donc il n'y a pas tant que ça d'auteurs et d'autrices, en fait, qui est capable d'aller jusqu'au bout c'est pesant quand on fait une BD de 160 pages et qu'on est à la page 63. Ben, c'est un peu comme quand on est au milieu du désert. C'est-à-dire, il ne faut pas s'arrêter. Enfin, ça suppose un truc psychologique.
Quel enchaînement. Et le désert. On y va avec moi, Fadi, le frère volé, le tome 1 aux éditions Les Livres du Futur. Merci, Riyad Satouf. Bravo. Hâte de vous recevoir pour le tome 2 qui sortira quand?
Ben, j'espère l'année prochaine.
Il est à fond dessus.
À fond. Ouais.
Mais c'est pas sûr parce que, comme il y a le film des Inconnus,
on y croit, on est à fond avec lui. Riyad, on t'embrasse. Vas-y, boss, on t'attend là.
Le meilleur de la bande originale. C'est fini pour aujourd'hui. Merci Leïla.
Merci Nagui. Merci Dani. On se retrouve demain, même endroit, même heure, avec Daniel Pennac.
Ah, je l'aime bien Pennac. Alors je comprends rien quand il parle, mais je l'aime bien.
Un peu comme toi. Passez une belle journée, Daniel. Sur Inter.